Bon matin. Vous allez bien? On va le réessayer. Vous savez que j'aime ça quand on répond, hein? Vous allez bien?
Oui!
Parfait. C'est mieux, c'est mieux. Donc, ce matin, c'est moi qui ai la grâce de pouvoir nous partager un peu sur un texte ce matin que les anciens m'ont demandé de parler. Mais les anciens, ils sont pas fins tout le temps. Parce qu'ils m'ont fait commencer dans le milieu d'un livre. Et puis, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis pas bon pour commencer au milieu. Moi, je commence au début. Puis quand je suis rendu au milieu, je prêche le milieu. Mais ce matin, on va parler de Colossiens chapitre 3, les versets 1 à 4. Qui est une exhortation au caractère chrétien. Je l'ai résumé par trois mots. Cherche, aime, combat. Trois mots qu'on va regarder ensemble parce que le caractère chrétien qui nous est présenté, premièrement, dans le texte, il nous amène à faire ces trois choses-là. Et il tire toute sa source de notre salut. Et on arrive au milieu du livre de Colossiens. Pour savoir où est-ce qu'on est, on va lire. Et ceux qui étudient un peu, normalement, quand on commence par un « si donc », il faut aller voir avant. Sinon, il va manquer quelque chose. Donc, on va lire ensemble, si vous voulez suivre à l'avant ou dans vos Bibles, Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » Prions. Seigneur notre Dieu, que ta parole puisse être bénie dans nos cœurs, qu'on puisse la chérir, la vivre et l'accepter, Seigneur. Que tu puisses vraiment nous apporter à vouloir plus de toi, chercher plus de toi, t'aimer comme toi tu aimes et combattre, Seigneur, un combat qui est le nôtre, un combat de sanctification, de recherche, d'amour. Seigneur, un combat qu'on ne peut pas gagner sans toi. Ce matin, parle à nos cœurs comme tu as parlé aux nôtres. Apaise nos cœurs, apaise chacun d'entre nous. Aide-nous à voir clair, Seigneur, dans ce qu'on doit faire dans nos vies. Que ta parole, Seigneur, soit agissante dans nos cœurs et dans nos vies. Que tu puisses vraiment avoir un impact et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ton effet comme tu nous le promets, Seigneur. Vraiment, place ta main sur chacun d'entre nous ce matin pour ta gloire. Amen. Donc, 3 vient après 1 et 2. Hein? Ce qu'on a parlé un petit peu. C'est simplement pour vous mettre en contexte, parce que dans le livre de Colossiens, il y a un thème qui est pour moi central dans ma lecture et qui va nous apporter à vraiment voir pourquoi les 4 versets et un tiers qu'on a ce matin vont vraiment être importants. Comment on va les appliquer et les vivre? Donc, le contexte, premièrement, l'œuvre de Christ le place au-dessus de tout. Dans Colossiens chapitre 1, Paul nous dit que Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né, le proéminent, celui qui est vraiment avant toute chose, le plus important, celui qui va hériter de tout. Christ vraiment est placé au-dessus de tout. Il est comme Dieu. Si vous cherchez Dieu, vous allez le trouver en Christ. Vous allez le trouver en son œuvre, en toute sa perfection et en rien d'autre. Donc, dans le livre de Colossiens, une des premières choses, Paul vraiment prend le temps de prendre Christ et de vraiment le peindre comme celui qui est proéminent, le premier, au-dessus de tout. Le deuxième point, c'est de tenir ferme devant les philosophies du monde qui vont, qu'on le veuille ou non, venir amoindrir l'Évangile. Vous savez, et ce n'est pas toujours des choses qui sont erronées, mais c'est des choses qui viennent ternir l'Évangile. Et un exemple, c'est simplement, Christ est mort pour tes péchés, mais, là on sait qu'il y a un problème, mais tu dois faire ça. Dans le temps de Paul, c'était « Christ est mort pour tes péchés, mais tu dois être circoncis. »« Christ est mort pour tes péchés, mais tu dois être baptisé. » Absolument. « Christ est mort pour tes péchés, mais il faut que tu ailles faire ta confession à toutes les semaines. »« Christ est mort pour ses péchés, mais, etc., mettez ce que vous voulez. » Et c'est des philosophies du monde que Paul résume à pourquoi vous dit-on, si Christ a fait toute une œuvre complète, pourquoi vous dit-on, ne goûte pas, ne touche pas, ne mange pas, ne regarde pas? Pourquoi est-ce qu'on vous dit toutes ces choses-là et qu'on les ajoute à l'Évangile? Si elles viennent ternir l'Évangile. Donc, c'est un peu le contexte, tenir ferme devant les philosophies du monde. Et il y en a d'autres, il y a des philosophies du monde qui vont simplement nier l'existence d'un Dieu. Vous en connaissez beaucoup? Hein? Je pense que notre système d'éducation prône que Dieu n'existe pas. Que tout le monde ici, on est les deux de pique. Parce qu'on croit en Dieu. C'est peut-être rude là, de dire un deux de pique, là, je ne sais pas. C'est dans mon langage. Mais il y a aussi des gens qui vont dire que le Dieu de la Bible, la philosophie du monde dit que le Dieu de la Bible, c'est un méchant. C'est un pas fin. Et ils vont nier toute son œuvre parce qu'ils ne veulent pas voir la justice de Dieu et ne peuvent pas comprendre qu'un Dieu juste, qui est parfaitement amour, puisse vivre, puisse exister. On n'est pas capable de connecter les deux ensemble. Et Paul nous met en garde contre une philosophie qui va nous détourner de l'Évangile. Le dernier point, notre vie spirituelle n'est pas dictée par un système d'œuvres. Et ce matin, ça va peut-être sonner comme ça. Peut-être qu'il y en a qui vont penser que c'est ce que je prêche, et c'est pour ça que je le mets. Parce que dans Colossiens, Paul le dit, l'œuvre du croyant n'est pas une condition du salut. L'œuvre du croyant n'est pas une condition du salut. C'est une, pour lack d'un meilleur mot, excusez, c'est un anglicisme, mais c'est une récompense que Dieu donne aux croyants de faire une œuvre. C'est une bénédiction que Dieu donne aux croyants de faire une œuvre. Et s'il la fait bien, il va être béni. Il va grandir et il va vraiment être une nouvelle création. Donc, ce matin, notre texte. Si donc, juste avant, il nous parle de ces trois points-là, un peu dans le désordre, un peu, c'est important de les avoir, les trois, parce qu'on arrive ici avec un « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ », la résurrection de Christ est le symbole. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Sans Christ, il n'y a pas de vie. Sans Christ, il n'y a aucune vie spirituelle possible. Et je ne parle pas, encore une fois, on l'a dit, je ne parle pas d'une spiritualité du monde, mais bien d'une spiritualité, d'une profondeur, d'une connaissance de l'Évangile. Et donc, si donc vous êtes ressuscité, au lieu de si donc, ça va être en raison de, OK? Parce que vous êtes ressuscité avec Christ, va se produire des changements. Et non, je vais faire des changements pour arriver à être ressuscité avec Christ. Vous comprenez la différence? Vous n'avez pas l'air sûr. OK. Donc, je vais le répéter. Donc, en raison de... Donc, parce que je suis ressuscité avec Christ, il va se produire des changements. Et non, je vais faire des changements jusqu'à ce que je sois ressuscité avec Christ. Vous comprenez la différence? Qui ici... Oui, yeah! Ils sont réveillés. OK. Excusez. Donc, qui ici peut donner la vie? Qui ici peut donner la vie? Il y a plein de questions. C'est une pogne, c'est une blague. C'est pas vrai. Personne ici, aucun d'entre nous, par soi-même, on a le pouvoir de donner la vie. Mais en même temps, il y a une bémol. Qui ici est né de nouveau et ressuscité avec Christ? Vous pouvez lever votre main, soyez pas gênés. Je suis né de nouveau, ressuscité avec Christ, un enfant de Dieu, racheté par le sang précieux de l'agneau. Si vous n'êtes pas un croyant, ce que je viens de dire, ça ne veut rien dire. C'est pas grave. Si vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes sauvé, lavé par le sang de Christ, vous avez en vous cette vie. Vous pouvez la partager et voir quelqu'un qui est dans la détresse, la mort spirituelle, une incapacité complète de comprendre l'Évangile. Vous pouvez partager une vérité qui va lui ouvrir les yeux. Une vérité qui va le délivrer de tout ce qui peut faire de lui un esclave, de tout ce qui peut l'amener à se détourner de Dieu, de tout ce qu'il met en guerre contre Dieu. Et c'est des fois des petites niaiseries qui vont faire ça. Et les changements qui vont se produire en vous devraient avoir une répercussion sur les gens autour de vous. On devrait les voir, vous devriez plus être pareils. L'épicentre de votre vie, vous savez c'est quoi l'épicentre? C'est pas le centre d'un épi de maïs. C'est quand il y a un tremblement de terre, le point où ça a le plus d'impact, là où ça a commencé, où ça a frappé le plus fort, on appelle ça l'épicentre. C'est le centre de là où tout a commencé. Et après ça, les choses autour, c'est comme les ondes de choc. Merci. Il y en a qui, le Saint-Esprit me parle. Non, c'est pas vrai. Mais c'est des vagues et on a les impacts après. L'épicentre, c'est là où ça cogne. Et le reste qu'on ressent, c'est ça qui est le tremblement de terre. C'est ça qui est l'impact ou l'effet. Et donc, l'épicentre dans votre vie devrait être Christ. Et non, vous me voyez venir, l'œuvre. Et non, mon ministère, le dimanche matin, papa, maman, excusez, j'étais habitué de parler à des ados, là. La foi de mes amis, non, Christ. Des changements. Quels changements? Donc, vous vous souvenez de mes trois mots? Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et faites mourir les membres terrestres. Je voulais prendre trois verbes à l'impératif. J'avais pensé chercher, aimer, tuer. C'est un petit peu bizarre. Fait que j'ai gardé les mots qu'il y avait dans la Bible. Donc, cherchez les choses d'en haut. Et ensuite, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et le dernier point, faites mourir les membres terrestres. Comme on a chanté, crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cherchez les choses d'en haut. Oui. Quand on parle de chercher les choses d'en haut, j'aimerais vous apporter un point qui est peut-être différent. Je sais que normalement, quand on pense à chercher les choses d'en haut, on a trois choses qui viennent rapidement. Prier, lire notre Bible, évangéliser. J'aimerais qu'on aille un pas plus loin ensemble. J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à qu'est-ce qui va avoir, et ça a-tu bien sorti, je ne sais pas, qu'est-ce qui va avoir au ciel? C'est quoi les choses d'en haut? Qu'est-ce que je peux être sûr à 100% que je vais retrouver au ciel? Les choses d'en haut, c'est ce que je vais retrouver au ciel quand je vais être dans la présence du Dieu trois fois saint. Qu'est-ce qu'il va avoir au ciel? Christ? Il va avoir les autres croyants? Et il va avoir la présence de Dieu? Le changement de caractère qui devrait définir chaque croyant. Il n'y aura pas de pécheur. Il n'y aura pas de péché. Il n'y aura plus de questions. Cherchez les choses d'en haut. Voyez-vous à quel point ça peut aller plus loin que juste « je vais chercher à prier plus, je vais chercher à plus lire ma Bible, je vais plus partager l'Évangile. » Non, non, cherchez les choses d'en haut. Quand la parole de Dieu nous parle par un prophète, le prophète nous décrit Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Tout ce que les prophètes recherchaient était de connaître plus Dieu. Et parfois, il y avait une révélation tellement terrible qui tombait à pleine face, il shakait. « Seigneur, qui suis-je pour que tu m'aies montré une telle chose? Je vais mourir, je ne peux pas le prendre. » Et ensuite, il pouvait se relever, aller l'annoncer au peuple avec force, avec témérité, avec puissance. Une vérité sur un Dieu vivant, trois fois saint et pur. Donc ensemble, ce matin, on va regarder ces trois points-là. Les choses d'en haut, l'œuvre complète de Christ. Au verset 1 de Colossiens chapitre 3, regardez bien, « Cherchez les choses d'en haut. » On a fait un petit cover-up. « Où Christ est assis à la droite de Dieu. » Pour ceux qui ont l'étude facile, vous êtes probablement au courant que lorsque un roi ou un dirigeant dans la parole de Dieu est assis, ça veut dire quelque chose de spécial. Est-ce qu'il y en a qui le savent? Lorsqu'un dirigeant est assis, ça veut dire qu'il a fini de diriger. Ça veut dire que son œuvre, elle est terminée. Un général, dans la bataille, est debout, au front, combat avec son armée, dirige son armée, envoie les ravitaillements, s'assure que ses soldats sont là, visite ses soldats, les encourage. C'était le devoir du roi. Le souverain était toujours en train de se promener. S'assurait que tout allait bien. Et quand un souverain était assis, c'est parce qu'il avait gagné. C'est parce qu'il avait terminé, il n'avait plus besoin de travailler. Donc, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Est-ce que Christ est debout au ciel ou il est assis? Une autre façon de poser la question, est-ce que l'œuvre de Christ est complète et terminée ou elle est encore en action? C'est un autre pogne, hein? L'œuvre de Christ, elle est complète et terminée. Est-ce que Christ a besoin de mourir encore? Est-ce que Christ a vraiment la puissance de changer une vie du tout au tout? Est-ce qu'il a la puissance d'agir dans notre Église, dans notre communauté, dans notre vie, dans notre cœur? J'espère que la réponse est oui. J'espère que vous savez que la réponse est oui. Donc, Christ assis à la droite de Dieu. Et quelle est cette œuvre? Souvent, je pars sur, quand je vois ça, l'œuvre de Christ complète, moi, je pars sur, j'oublie tout, puis je veux juste parler de ça. Mais son œuvre, elle est complète et parfaite. C'est le Dieu, trois fois saint, qui a pris un corps comme vous et moi, sans tache, sans péché, dans le seul but d'être détruit par Dieu pour payer le prix de nos péchés. Tous et chacun ici, on est responsable de la mort de Christ. Moi, le premier. On est responsable des crachats. J'aurais probablement été un des premiers à y cracher dans la face parce que je n'ai pas le droit de faire ça. On m'a dit non depuis que je suis bébé. Pas le droit de cracher. Je l'aurais fait. Je vous le dis. Oh oui. Et pourtant, Dieu, dans sa grâce, par cette action, pour sa gloire, a tout payé mes péchés par l'œuvre complète de Christ. Si vous cherchez à grandir dans votre foi, vous vous demandez « qu'est-ce que je dois chercher ?» Qu'est-ce que je dois vraiment mettre mon focus, mon attention? Connaissez Dieu. Apprenez plus sur lui. Et il y a des choses terrifiantes que vous allez apprendre sur Dieu. Et c'est là que le deuxième point va embarquer. La deuxième chose qu'on doit rechercher, les croyants et la communion que Dieu nous donne. Si vous êtes un croyant, et là je vais être plus méchant un peu, si vous vous appelez un croyant, si je m'appelle un croyant, et que mes amis croyants se comptent sur les doigts de ma main. Ça va peut-être pas bien. Si je suis pas capable de sentir mon ami qui est sauvé et qui travaille pour l'Évangile, mais on s'est chicané, v'là 8 ans, v'là 20 ans, je sais pas, on s'est déjà chicané. Il m'a dit qu'il aimait pas mon char, plus capable. Non, on a fait un déjeuner ensemble, puis il a donné une plus grosse tranche de ballonné à l'autre. Non, 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 non. Pas capable de prendre ça, moi. Des fois, pour des niaiseries, des fois, pour des choses très importantes, on accepte de perdre la communion d'un croyant qu'on va voir éternellement au ciel. On accepte de briser quelque chose que Dieu nous a donné. Éternellement, d'éternité en éternité, je vais avoir des croyants avec moi. Puis il y en a peut-être que, parce que je suis orgueilleux, méchant, rancunier ou simplement oisif, je ne suis pas capable de les sentir sur terre. Puis éternellement, là, je suis persuadé que Dieu va vous mettre à côté. Tiens, toi. Mais voyez-vous à quel point, des fois, ça peut être dur. Et là, je sais qu'il y a des choses difficiles, mais une des choses qu'on va avoir en haut, c'est les autres croyants. Les croyants, que je les aime ou non, tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, vont être là. Si je n'apprends pas à connaître mes frères, je ne cherche pas les choses d'en haut. Si je m'isole dans mon coin parce que, oh, comment j'ai la vérité, puis oh, comment les autres sont des moins bons que moi parce que moi, je connais la Bible, je connais l'Évangile, j'ai des révélations spéciales. Je m'isole. Là, je perds la communion avec une des choses qui éternellement va être là. Et le troisième point, parce que c'est toujours plus facile quand on a trois points, c'est au ciel, il va avoir le caractère de Dieu ainsi que son cœur. Et là, ça sonne poétique, c'est beau, mais ce que Dieu essaie d'inculquer dans chaque croyant va être présent au ciel. Tout le monde me suit? Ce que Dieu travaille de jour en jour par l'Esprit Saint dans votre cœur, dans mon cœur, dans le cœur de son Église, dans le cœur des croyants du monde, le caractère de Dieu, ce que Dieu aime, ce que Dieu déteste, ce que Dieu recherche, ce que Dieu s'éloigne de, là où Dieu veut être, là où Dieu veut que j'aille, comment Dieu veut que j'agisse, comment il veut que je réfléchisse, le caractère de Dieu va être là. Son cœur, comment Dieu aime. Comment Dieu aime. Quelqu'un peut me dire comment Dieu aime? Vous êtes bon parce que tout le monde dans la Bible essaie de comprendre à quel point et comment Dieu aime. On va voir l'éternité dans sa présence pour chercher et trouver son cœur. Le voir, le vivre, palpable, visible. Ça va être, excusez le mot, malade. D'avoir l'éternité dans la présence de Dieu. Et là, il y a mon deuxième point. On va l'avoir. Affectionnez-vous. Qu'est-ce que l'affection? Qu'est-ce que l'affection? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Un sentiment. Affectionner quelque chose. L'aimer, le chérir, le protéger, en prendre soin. J'affectionne ma femme, mes enfants, ma famille, les gens que je connais, les proches. Et la Bible me dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est quoi les choses d'en haut? C'est l'œuvre de Christ. C'est les croyants. C'est le caractère de Dieu. Et je suis sûr qu'il y a d'autres choses. Mais ce matin, c'est ce que mon texte me donne. Je vais essayer de rester dans les barrières. Il y a d'autres choses au ciel, c'est sûr. Mais ces trois choses-là, on a la certitude qu'elles vont être là. Donc, s'affectionner aux choses d'en haut. Changer notre vision du monde. Ceux qui étaient là à la conférence, en mai, est-ce qu'on a une vision du monde parfois qui est pathétique? Est-ce que je suis capable de regarder un non-croyant qui marche dans la rue et comprendre que d'éternité en éternité, il ne pourra pas être dans la présence de Dieu? Je ne pourrais pas apprendre à connaître cette âme-là qui a peut-être soif de Dieu et qui ne le sait même pas, qui est dans les ténèbres, qui a de la difficulté. Notre vision du monde, si vous travaillez un petit peu comme moi dans un milieu séculier, la vision du monde pour les hommes dans le milieu de la construction, ça se résume à ça. J'ai couché avec tant de filles, j'ai tel char, puis je vais avoir tel bateau, puis j'ai fait tel voyage, puis telle niaiserie, puis là, la vision du monde, puis là, les croyants, nous, moi, je suis marié, je suis fidèle, j'ai ma famille. L'Évangile, la Bible sont les choses les plus importantes dans ma vie. Ma femme, mes enfants, c'est ce que je chéris le plus. Mon char, c'est pas grave. Ma maison, j'en prends soin. C'est pas grave. Hein? Des voyages? Pourquoi pas? Mais pourquoi? Est-ce que... Hein? Qu'est-ce que le monde nous enseigne? Hein? Smart is the new sexy, qu'ils disent. Tout le monde veut être le plus intelligent possible. Et le plus intelligent possible, ça veut dire aimer le moins possible Dieu. Chercher le plus possible à trouver une autre façon de vivre. Chercher le plus possible à être capable de mélanger un peu une certaine religiosité avec des œuvres, avec une façon de penser, avec l'amour. Et là, je vais tout mélanger ça, je mets ça dans le blender, et voilà, j'ai ma religion. Et là, ma religion, elle est bonne. Parce que ma religion, elle me sied à moi. Si elle ne sied pas à toi, c'est pas grave. On peut avoir chacun notre vérité. Hein? Ma vérité, c'est qu'on doit manger tous les enfants d'un an et moins. Mais c'est ma vérité, tu n'es pas obligé de croire ça. Puis je ne t'obligerai pas à le faire. Mais c'est ma vérité. Est-ce que vous aimeriez entrer dans ma religion? C'est une niaiserie, là. C'est pas vrai. Mais voyez-vous à quel point la vision du monde est un mélange de plein de choses et qui peut détourner. Et des fois, il y a du bon dans ce que le monde va dire. Parce que le cœur de l'homme, bien qu'il soit mauvais, Dieu a mis dans le cœur de l'homme sa loi. Il l'a caché là. Les hommes savent quand ils font quelque chose de bon ou de mauvais, jusqu'à ce qu'ils soient assez détruits spirituellement pour ne plus faire la différence entre le bien et le mal. Apprendre à aimer différemment. Aimer comme Dieu aime. Comment Dieu nous a aimés? À 180% plus infini. Hein? Quand on était petit, on faisait l'infini, exposant l'infini. Là. Aimer différemment. Aimer comme Dieu aime. Accepter de souffrir. Si je vous cite 2 Timothée 3:12, qui dit « Tous ceux qui veulent suivre Christ pieusement seront persécutés. » Aimer différemment. Accepter la critique. Pas parce que j'ai été méchant, pas parce que j'ai été impoli, pas parce que j'ai fait une niaiserie, non, non, non. Parce que je suis croyant. Parce que la Bible m'enseigne d'aimer mon prochain, peu importe le prix. La Bible m'enseigne de me tenir ferme sur la parole. La Bible m'enseigne que mon prochain a une valeur aux yeux de Dieu, qui était assez grande pour que Christ prenne un corps et soit brisé. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un de meilleur parce que j'ai compris ça. Ça fait de moi quelqu'un de condamné. Que celui qui veut me suivre prenne sa Lamborghini. Non? Que celui qui veut me suivre prenne sa... Ça veut dire quoi? Qui meurt à soi-même. Vous êtes toutes morts, j'espère. Moi aussi. On est toutes morts. On est toutes décédées avec Christ. Parce que si on ne l'est pas, on ne peut pas vivre par Christ. On est toutes en besoin d'être transformées. Si donc vous êtes ressuscités, pour être ressuscités, faut mourir. Hein? C'est quelqu'un qui est déjà ressuscité vivant? On appelle ça se réveiller. OK? Mais personne peut ressusciter s'il est vivant. Et une fois qu'on est ressuscité, si donc vous êtes ressuscité, cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut, apprenez à aimer comme Christ. Et finalement, accepter et vivre les vérités bibliques. Il y a des vérités bibliques qui sont dures, extrêmement dures à accepter. Que certains membres peut-être autour de vous que vous aimez et que vous chérissez, que j'aime, que je chéris, vont renier Dieu, ne voudront rien savoir. Et que même si je passe 2 semaines à genoux à prier pour eux, même si je passe toute ma vie à juste prier pour eux, puis à faire mon possible, puis à les évangéliser, puis à les persécuter, puis à les appeler, jamais ils ne vont rien vouloir savoir de Dieu. Et que la justice de Dieu un jour va tomber, qu'elle va frapper. Et que dans son amour et dans sa justice, Dieu va être obligé de mettre fin au péché. Et qu'ultimement, il va avoir la victoire pour les croyants, pour Christ, une gloire. Et c'est ce qu'il nous apprend au verset 3. On va l'avoir. On est mort au monde et vivant en Christ. On a une complète espérance dans la venue de Christ, dans sa gloire. Regardez au verset 3. Vous êtes mort, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, vous ne pouvez plus vivre par vous-même, par vos principes, par les œuvres, à chercher à plaire à Dieu, à m'approcher plus de Dieu, à être vraiment toujours moi-même, par ma force, plus efficace. C'est impossible. Quel est l'épicentre de ma croissance spirituelle? C'est Christ. Et ma complète espérance est dans la venue de Christ dans sa gloire. Un jour, ça va être fini. Et chaque croyant devrait se réjouir qu'un jour, ça va être fini. On a une complète espérance dans sa venue. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. C'est là qu'on va avoir finalement la victoire. On a l'ultime récompense chrétienne. D'être mort et d'être vivant en Christ. Mort au monde et vivant en Christ. On a cherché, on doit apprendre à aimer. Et le dernier point, faire mourir les membres terrestres. Et souvent, faire mourir les membres terrestres, c'est pas facile. La raison pour laquelle c'est pas facile, c'est que on est bien. On mange 3 fois par jour, des fois 4, des fois 5. On a un auto, un travail, une maison, une famille, nos enfants vont bien. On est bien. Personne qui manque de rien. Même la personne la plus pauvre dans cette salle a plus que la plupart des gens dans le monde. On est-tu assez bien? Mais on est-tu capable d'accepter que peut-être on en a trop? Et là, je parle aux croyants. On est-tu capable d'accepter que peut-être on ne vit pas vraiment comme Christ? Et ça fesse, quand on lit des versets, je vais vous montrer quelques passages. C'est Matthieu 5, 29, 30. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, mets des gouttes dedans. Arrache-le. Si ta main est pour toi une occasion de chute, mets des gants. Coupe-la. Drastique. Car il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume avec un seul œil que de périr éternellement avec tes 2 yeux. Arrache, coupe, détruis. 2 Timothée 3, 12, 17, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais toi, attache-toi aux choses que tu as apprises. Je vais vous le lire. Il est loin. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance, tu connais les saintes Écritures, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Les hommes méchants avanceront toujours plus, mais toi, demeure. Demeure. Faire mourir les membres terrestres. On a parlé des philosophies. On a parlé des façons de penser. On a parlé des choses que des fois on recherche qui ne sont pas là. Et Paul dit à Timothée, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure dans la parole. » 1 Jean 3, 1 à 10. Cela est... Moi, je trouve qu'il fesse. 1 Jean 3, 1 à 10. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, qu'il se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Et quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme Christ est juste. Celui qui pêche, il est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Est-ce que je suis drastique? Est-ce que dans ma vie, j'aime mieux avoir deux yeux et l'absence du Seigneur que d'avoir un œil et de suivre Dieu? Est-ce que je suis un témoignage de péché? Est-ce que je représente l'ennemi ou le sauveur? Si je suis ressuscité avec Christ, ça devrait être évident. Si je suis ressuscité avec Christ, je vais accepter ces vérités bibliques. Je vais m'humilier, tomber en repentance. Et si, dans notre vie en ce moment, on est en état de recherche, on se questionne, on vit une lutte, on vit une difficulté, Hébreu nous dit qu'on peut s'approcher du trône de la grâce. Approchez-vous pleinement du trône de la grâce. Soyez délivrés de toutes vos inquiétudes par Christ. Mettez votre pleine confiance en lui. Cherchez-le. Ayons un cœur changé. Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Faites mourir les membres terrestres. Soyons conséquents. Un de mes mots préférés. Cherchez les choses d'en haut. Les croyants, le caractère de Christ, sa personne et l'œuvre. S'affectionner à toutes les vérités qu'on peut trouver dans la parole, plus qu'on s'affectionne au monde. Apprendre à aimer comme Christ. Et ensuite, faire mourir les membres terrestres. Faire le ménage dans nos vies. Faire le ménage dans tout ce qui peut faire honte ou une tâche à l'Évangile ou à Dieu dans nos vies. Faire le ménage et vraiment, si vous êtes ressuscité avec Christ, toutes ces choses-là, vous allez les faire. Et non afin de, mais si. Suivons Christ. Seigneur notre Dieu, sois béni ce matin, sois glorifié pour ta personne, pour ton œuvre et pour ta parole. Bénis-la en nous,
fait qu'on puisse vraiment être tous et chacun bénis par toi. Seigneur Dieu, garde-nous et fais que chacun d'entre nous puisse quitter cette salle en ayant plus soif de toi. Seigneur Dieu, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen.